Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait, selon moi, que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant van-nutritionniste. Salut à toi! Je prends quelques minutes pour te rappeler qu'il est encore temps de t'inscrire au programme « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? » qui débutera le 9 janvier 2024. En quelques chiffres, le programme, c'est 12 semaines de menus hebdomadaires conçus par moi-même et ma collègue Geneviève Plante, qui est créatrice culinaire. C'est également 12 ateliers virtuels live pendant lesquels on exploite une thématique en lien avec l'alimentation. On parle notamment des petites graines, des salades repas, des dérivés du soya, donc fave edamame, PVT, tempeh, des légumineuses et de la santé digestive, mais ça, ce n'est que quelques exemples parmi nos 12 semaines d'ateliers. Finalement, tu as accès à un groupe Facebook pour échanger, partager et te motiver, et tout ça pour seulement 12,50 par semaine. Alors, tu peux t'inscrire dès maintenant en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 4. Donc aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du sujet qu'on aborde et de mon invité. En fait, aujourd'hui, on va jaser d'hormones, puis ça va vraiment mettre la table pour ce qui s'en vient pour ma part en termes de clinique. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur les médias sociaux, mais je suis vraiment en train d'intégrer de plus en plus les hormones à ma pratique. Je me suis beaucoup formée là-dessus au courant des derniers mois. Donc, vous risquez d'en entendre parler davantage de ma part au courant de mes contenus à venir. Alors aujourd'hui, comme je disais, je suis accompagnée du docteur Manon Charlebois. Salut Manon!
Salut!
Ça va bien?
Ça va bien, je suis vraiment contente. Merci de me recevoir à ton podcast, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Bien, plaisir partagé. Écoute, je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir pour jaser de ce sujet qui m'intéresse tellement. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, mais j'ai envie que tu nous parles un peu de toi, donc qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser à ce sujet-là. Présente-toi un petit peu.
moi, je suis médecin de formation. En fait, je suis spécialiste, je suis gynécologue obstétricienne. J'ai terminé en 2008, fait que ça commence à faire un petit moment. Donc, ça a toujours été, moi, la santé de la femme, hein, ça a été toujours dans mes intérêts. J'ai travaillé en région longtemps, fait beaucoup d'obstétrique, de gynéco général et tout ça. Puis, à un moment donné, je pense, dans ma vie, il manquait des réponses, il me manquait des outils dans mon coffre à outils. Donc, je suis allée explorer du côté de la médecine intégrative. Donc, j'ai suivi des cours en acupuncture au niveau universitaire dans différentes universités. Puis ça m'a amené sur un long chemin, long parcours de plusieurs années. Je pense que ça m'a beaucoup changé comme personne, mais aussi comme médecin. Ça m'a amené à avoir une vision peut-être un petit peu plus holistique, un petit peu moins centré sur la maladie. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été me former, puis je continue tout le temps. Moi, je suis tout le temps quelqu'un qui est en formation. J'ai terminé des formations en acupuncture japonaise. Donc, vraiment, j'essaie de plus en plus d'intégrer ces principes-là parce que je pense qu'on a besoin, comme médecin, de parler de la prévention de la santé, puis pas juste des maladies. Donc, d'aller ouvrir un petit peu mes horizons, moi, ça m'a aidé à intégrer ça à ma pratique.
Voilà. Je te rejoins tellement là-dedans parce qu'en nutrition, c'est pareil, tu sais. On veut aider, puis avec les outils de la médecine traditionnelle, à un moment donné, on se sent un peu dépassé. Fait que je pense qu'il faut justement ouvrir notre esprit pour essayer d'aller chercher des outils là, de manière un petit peu plus large. Puis là, présentement, dans ton quotidien, tu fais quoi? Tu es encore en gynéco? Tu es en acupuncture? Je sais que tu as une formation en ligne aussi. Fait que ça ressemble à quoi ton quotidien présentement?
Éparpillée. moi, j'ai quitté l'hôpital en 2020 pour des raisons de santé. J'ai dû quitter ma pratique chirurgicale. Donc, je faisais quand même beaucoup de chirurgie dans ma pratique. Donc, j'ai quitté ça. Je me suis plus orientée, là, retournée à mes amours. Fait que je fais de la gynéco générale. Je fais beaucoup d'hormonothérapie ces temps-ci. Je vois des gens de tout âge, par contre, qui ont des problèmes hormonaux. Et je vois également des gens en acupuncture médicale. Donc, j'essaie d'amener l'acupuncture dans mon traitement, dans mes options de traitement. Donc, pour certaines personnes, là, ça nous aide beaucoup à travailler en même temps sur la digestion, le système immunitaire, le système hormonal. Donc, c'est ça que je fais. J'ai aussi un job très administratif. Je travaille dans un tribunal 2 jours/semaine. Fait que je suis un petit peu... Mon cours était vraiment plus, j'ai vraiment ressenti à un moment donné le besoin de venir mettre sur papier, à quelque part, organiser mes connaissances pour être plus efficace aussi dans ma pratique quand j'évalue les gens. Donc, tu sais, c'est venu un peu, le cours en ligne est vraiment... est née de cette idée-là de « je vais commencer par rassembler mes choses ». Après ça, je me suis dit « mon Dieu, c'est donc bien intéressant si on avait le même vocabulaire, ça pourrait me sauver du temps, puis ça pourrait sauver du temps aussi aux gens quand je les vois en consultation ». Donc, c'était vraiment ça, l'idée en arrière de ça, mais j'aime beaucoup, j'ai toujours été impliquée dans l'enseignement. Pour moi, être un médecin, c'est être aussi un bon professeur, puis expliquer les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Ah, c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, là, je réalise que j'ai dit aux gens qu'on allait parler d'hormones, mais hormones, c'est très large. Donc, on va surtout jaser de ménopause et périménopause. Puis périménopause, ça, c'est un sujet qui me fascine. À quel point j'ai l'impression qu'on commence à en entendre parler, puis que dans le fond, tu sais, il y a bien des affaires qui se passent là, là. Fait qu'on peut peut-être commencer avec ça aussi. Si tu pouvais nous définir en fait, ben, c'est quoi la ménopause versus la périménopause, puis comment qu'on évolue tout, tu sais, comme en tant que femme vers la ménopause et qu'on passe de l'état reproducteur à non reproducteur finalement.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est une bonne question. On commence de plus en plus, on en parle, puis je pense que c'est bien. Fait que si on commence par la définition de la ménopause, on peut dire que la ménopause, c'est la cessation finalement permanente des menstruations chez une personne qui a un utérus. Donc, évidemment, c'est pas très pragmatique parce que plusieurs femmes qui ont pas de règles naturelles dans la période mi-quarantaine, fin cinquantaine, tu sais, parce qu'ils ont soit un stérilet, ils ont eu, sont fait retirer l'utérus, sont sous contraception. Donc, on peut dire que la ménopause, en fait, c'est le fait de cesser d'ovuler suite à un déclin de notre fonction de nos ovaires. Et en théorie, ça va commencer 12 mois après la date de nos dernières menstruations. Donc, habituellement, dans les pays plus industrialisés, là, comme au Canada, on va avoir l'âge moyen de la ménopause, c'est autour de 51 ans, mais ça peut vraiment varier entre 45 et 55 ans. Puis ça, c'est vraiment... ça va être vraiment selon nos gènes, mais aussi il y a plusieurs autres facteurs qui vont influencer l'âge de la ménopause. Par exemple, je pense au tabagisme, ça peut venir devancer cet âge-là, le fait de vivre en altitude aussi, d'avoir eu une opération à enlever l'utérus, d'avoir un VIH, ça peut venir faire qu'on va être en ménopause un petit peu plus tôt. Puis ça peut être plus tardivement aussi selon nos facteurs, le fait qu'on ait eu des enfants, si on a pris la pilule par exemple, si on est en surplus de poids. Mais en général, entre 45 et 55 ans, c'est là que ça va se passer, la cessation des menstruations pendant 12 mois consécutifs. Puis en général, tu sais, dans la clinique, quelqu'un qui vient qui n'a plus de menstruation pendant on ne sait plus quand, combien de temps, puis qui a 58 ans, on se dit bien fort probablement.
58 ans, oui, c'est clair. Ça, ça l'arrive souvent aussi à mes clients. Je leur demande, on en est où par rapport au cycle menstruel? Là? Ben, je ne sais pas trop. C'est souvent à cause des anovulants ou des méthodes contraceptives.
Exactement. Fait que c'est pas une définition pratique pour tout le monde. Fait qu'il faut se dire à peu près, c'est pas nécessairement son âge non plus précis, mais c'est à peu près ça. Donc, dans la littérature, on définit vraiment à l'absence de menstruation pendant 12 mois consécutifs, c'est le moment où on devient en ménopause. On va cesser d'être dans mode reproduction pour aller vers la ménopause qui va être un état finalement permanent. Tu sais, la ménopause, elle commence la journée 1 du 12 mois après puis une menstruation, puis elle se poursuit jusqu'à la fin. Quand on parle de la préménopause ou de la périménopause ou de la transition ménopausique, ben là, c'est une période qui est peut-être un petit peu plus floue à définir en termes de définition. En général, ça va commencer la fin trentaine, puis c'est vraiment un processus physiologique qui est normal. C'est quelque chose qu'on va toutes expérimenter de façon très différente, de façon très unique, dépendamment de nos conditions médicales de base, de notre santé psychologique, de notre ethnicité, de notre culture, de notre environnement et tout ça. Donc, généralement, cette période de transition-là, elle va se poursuivre, elle va commencer au moment où il va y avoir des petites subtilités, des petites irrégularités dans les menstruations, puis elle va avoir tendance, en fait, à durer presque 7 à 10 ans. Donc, c'est une période qui peut être très longue, qui peut commencer très jeune. Alors, tu sais, on est dans la trentaine, on est dans la mi-trentaine, puis on peut commencer à expérimenter certains petits symptômes par rapport à cette période de transition-là. Puis, je pense que c'est super important de comprendre que c'est transitoire, tu sais, c'est une période de transition. Ça ne sera pas de même toute notre vie. On est en train de recalibrer. Moi, j'aime bien prendre ce parallèle-là. On est en train d'updater nos systèmes de mise à jour. On est en train de recalibrer notre énergie dans cette période-là. Donc, il est possible qu'on expérimente des symptômes, comme il est possible, qui est tout à fait aussi naturel, de même pas s'en rendre compte, en fait, de pas avoir remarqué des petites variations subtiles. Mais je dirais qu'en général, les gens vont avoir des petits symptômes qui peuvent être comme, par exemple, moins de tolérance à l'anxiété, au stress, ou avoir plus de réveil fréquent la nuit, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, je trouve ça important qu'on s'y intéresse, puis c'est super que tu fasses un podcast là-dessus, parce que cette période-là, qui est comme un petit peu flou, parce que, tu sais, on peut avoir ou ne pas avoir des symptômes, on est souvent aussi avec un stérilet, puis de la contraception dans cette période-là, est importante à reconnaître, puis à apprécier, je dirais, parce que ça représente vraiment une fenêtre critique pour venir améliorer puis s'occuper de notre santé. Mm-hmm. Donc, au même titre que nos autres périodes de transition comme femme qu'on a passées, t'sais, on a passé au travers la puberté, d'une grossesse, puis du postpartum. C'était des périodes où on avait des grandes variations hormonales. Donc vraiment, je pense que cette période-là de transition ménopausique, c'est important de s'y intéresser parce que c'est là où nos petits bobos, nos petits problèmes de santé qui sont bien, bien cachés, des fois, oups, ils nous donnent des petites indications qui sont encore là, puis ils vont revenir plus en force, puis des fois plus en intensité, puis ça va être de plus en plus fréquent. Ça peut même être des problèmes qui peuvent devenir permanents dans le futur si on s'en occupe pas dans cette période-là. Donc, moi, j'aime ça aussi comparer la période de transition ménopausique à une espèce de puberté inversée, là. T'sais, parce que tout comme à notre puberté, on avait dans cette période de transition qui est la puberté, ben, ça nous ramène au fait que, un, c'est temporaire, puis c'était marqué par des grandes variations hormonales. Puis je pense qu'on va peut-être en reparler, mais tu sais, on pense que c'est très chaotique, là, tout ce qui se passe dans cette période-là, mais au contraire, on sait de plus en plus là, que c'est organisé en différentes phases.
Mm-hmm. Puis, tu sais, de ce que j'ai cru en comprendre de mes différentes lectures, ça semble être quasiment la période où justement les symptômes sont plus intenses par rapport à vraiment la ménopause en tant que telle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que mon raisonnement est erroné ou c'est pas mal ça qu'on voit dans...
Non, en fait, dans cette période de transition-là, où on va avoir un recalibrage au niveau de notre cerveau, mais aussi du système, notre système immunitaire, notre système cardiaque et tout ça, c'est là qu'on va voir plein de petits symptômes apparaître. Les symptômes sont souvent plus affecter notre quotidien dans la période de transition ménopausique plus qu'à la ménopause. Donc, il faut comprendre que la majorité des symptômes vont soit s'atténuer ou soit diminuer au moment où on va rentrer en ménopause. Et là, la ménopause va être associée avec des symptômes particuliers, par exemple comme la sécheresse vaginale, la peau qui est plus mince. C'est des symptômes qui sont en relation avec un taux d'estrogène qui est plus aussi élevé qu'avant. Ces symptômes-là, à la ménopause, vont rester, mais les symptômes de douleur au niveau des seins, d'anxiété, les problèmes d'insomnie, en général, ils vont tous s'améliorer à partir du moment où on va entrer en ménopause. Donc, c'est une période où on est plus fragile, c'est une période où on se comprend plus parce que tous ces petits symptômes-là, ils sont pas nécessairement, c'est pas des maladies, on va consulter, puis on se fait dire que tout est beau. Mais c'est aussi là où on se fait prescrire le plus d'antidépresseurs, où on se fait diagnostiquer le plus de fatigue chronique, de fibromyalgie. Fait que des fois, il faut y penser, peut-être, de se dire, est-ce que plutôt c'est pas en relation avec cette période de transition-là, avant de se faire diagnostiquer des fois des diagnostics là, qui sont permanents, puis qui vont généralement s'améliorer. C'est comme, j'avais ça dans la période de 40 ans, mais là tout va bien. Oui, c'est ça, par rapport aux maladies auto-immunes, par exemple, ces choses-là.
J'ai envie de dire aussi, tu sais, à 40 ans, tu es en plein dedans, là, dans le sens que, tu sais, au niveau de la carrière, souvent, c'est en ébullition. Tu sais, là, on a de plus en plus les enfants tard, fait que tu as peut-être des enfants en jeune âge. Si là, en plus, ça l'embarque, tu sais, ça fait beaucoup en même temps sur la même période qui peut faire en sorte que ça l'exacerbe un peu aussi, ces facteurs-là.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, contrairement aux autres périodes de transition, tu sais, peut-être, bon, la puberté, on n'était toutes pas préparées, je pense. Mais, tu sais, la grossesse et le postpartum, c'est un moment où on sait qu'on va avoir des variations hormonales. C'est un moment où on sait que notre cerveau va changer, puis on se prépare, tu sais, on va se préparer mentalement, on sait qu'on a besoin de plus de sommeil, on a besoin de faire plus attention à notre exercice, alimentation et tout ça. Mais dans la période de transition ménopausique, là, c'était juste comme si c'était un fardeau supplémentaire parce que ça rentre en conflit vraiment avec les valeurs de la société qui nous demande d'être toujours efficace et la compétition au travail parce que ça directement ça touche les femmes 40, début cinquantaine, c'est des femmes qui sont souvent ont gravi les échelons, ont des jobs qui sont importantes. Donc, malheureusement, on dirait qu'on en sachant pas que ça s'en vient, ben on ne fait pas des petits ajustements des fois qui sont nécessaires pour nous permettre de traverser cette période de façon plus, je dirais, élégante et avec le moins de symptômes possibles.
Puis, comment qu'on fait pour savoir si c'est ça la cause? Parce que là, j'ai le fameux, là, c'est sûr que tu t'en fais toujours parler, là, mais j'ai en tête, là, ben oui, mais j'ai fait 12 000 hormones, tout est normal. Ben oui, mais tout est toujours normal, on dirait. Puis les symptômes sont là pareil. Fait que là, il y a comme deux questions dans ma question, c'est-à-dire, et comment qu'on fait pour savoir si c'est vraiment les symptômes qu'on vit, si c'est vraiment associé à cette phase-là de notre vie? Puis au niveau des labos, justement, ben c'est quelque chose qui est pertinent? Si oui, on s'y retrouve comment?
Ben c'est une bonne question. En fait, je dirais, la première chose, c'est d'aller peut-être regarder, quand on fait une évaluation, quand moi je fais une évaluation, je regarde l'histoire gynécologique du début jusqu'à maintenant. Puis là, j'essaie d'aller identifier, on est où dans cette période de transition-là? Parce que les périodes de transition, elles sont, la période de transition, elle peut être subdivisée en 4 à 6 phases, là, dépendamment de la littérature où on suit. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est une séquence d'événements qui est organisée. Donc, dans la première phase, les patientes vont me dire qu'il va y avoir des petits changements subtils au niveau de leur menstruation. Des fois, on maintient des cycles qui sont très réguliers. On est encore aux 28-30 jours, par exemple. Mais on va avoir... Il me semble que ça fait plus mal. Il me semble que j'ai plus de lourdeur au niveau des seins, d'inconfort au niveau des seins. Je me sens moins patiente. J'ai plus de difficultés à dormir juste avant le déclenchement de mes règles. Fait que ça, c'est... Généralement, c'est des signes subtils qu'on est peut-être en train de transitionner, qu'on rentrait dans cette période-là. Ensuite, quand on atteint la deuxième, troisième phase, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir en premier lieu les cycles qui vont se raccourcir. Donc, on va avoir une différence dans notre fréquence. Donc, on va être plus menstrué souvent. Bon, je vais peut-être avoir 21, 24, 26 jours en chaque menstruation. Et ça peut durer des fois jusqu'à 2 ans. Puis c'est là que souvent on va voir des symptômes qui sont associés à la chute de progestérone. Comme par exemple, tu sais, j'en ai parlé, plus d'insomnie, plus de problèmes de sommeil, mais aussi tout le fameux SPM, là, et irritabilité et tout ça.
On fait va, que t'as des SPM intenses, tu dors pas, puis en plus, ça revient aux 21 jours au lieu de...
Ouais, c'est ça, mais c'est temporaire!
Temporaire, oui, merci de nous rassurer.
Temporaire. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer plus on avance dans cette période de transition-là, nos cycles... on va être de moins en moins ovulatoire. Donc, si on ovule pas, l'utérus est laissé à lui-même, hein, c'est un muscle, puis il va saigner par trop plein, un peu comme quand on oublie une hausse, là, on remplit notre piscine, puis on oublie l'eau dans la piscine, mais à un moment donné, l'utérus, il va nous amener des saignements comme ça. Et là, plus, à un moment donné, on va avoir une dernière menstruation, puis on va être dans notre phase 4, la phase 4 qui est comme un peu la salle d'attente, où c'est comme, coudon, je suis pas en ménopause, parce que je rentre pas dans ma définition du 12 mois, mais je n'ai plus de cycles menstruels qui sont réguliers. Mm-hmm. Puis quand je disais tantôt, c'est une séquence ordonnée, c'est qu'au début, on va commencer par voir, ça va être la progestérone qui va nous amener des problématiques au début. Dans la phase 2, la phase 3, l'importance de la progestérone, les effets du manque de progestérone qui est dû à des problèmes au niveau de notre ovulation va s'accentuer. Puis plus on va s'approcher du moment de la ménopause, ben là, ça se peut qu'on ait des symptômes qui sont en lien avec chute de testostérone et d'estrogène. Mais tout ça pour dire, tu sais, on ne deviendra jamais déficient, là. Notre corps, il a tellement prévu, tu sais, notre corps va nous donner de l'estrogène, même en menopause, là. On n'est pas déficient, on ne manque pas d'hormones, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de déséquilibre. Mm-hmm. Fait que si je reviens à ta question, les tests, tu sais, ça vaut-tu la peine de faire
juste
des...
Juste une seconde avant ça, dans le fond, j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, ton analogie là, de la piscine là, que tu dis, c'est comme un trop-plein, ça déborde. Est-ce que tu veux dire, dans le fond, que dans cette période-là, qui est, je pense, en phase 2-3, c'est là qu'on peut commencer à avoir des saignements qui sont plus abondants, en fait?
Tout à fait. Okay, les segments qui sont plus abondants. Donc, mes menstruations peuvent avoir la même régularité ou au contraire, là, mettons que j'avais un cycle de 28 jours, je peux avoir un cycle de 33, 35, des fois un petit peu plus dépassé. Et là, quand vont venir mes menstruations, je vais avoir un peu plus de caillots, ça va être plus abondant dans les premiers 48 heures. Je peux même être obligée de me lever la nuit, de combiner une serviette sanitaire avec quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est... Plus on avance dans cette transition-là, plus on c'est possible là, d'avoir des saignements là, qui sont abondants. Okay. Fait que je pense que, tu sais, comme médecin, le bilan sanguin, le bilan hormonal, il peut être important. C'est-à-dire que on peut diagnostiquer la ménopause avec un bilan hormonal où on va aller mesurer, par exemple, la FSH, qui est la Follicular Stimulating Hormone, là, qui part de notre hypophyse antérieure puis qui va communiquer à nos ovaires de faire un cycle menstruel. Donc, quand on a des valeurs en haut de 40, à au moins un mois d'intervalle, chez une patiente qui n'a plus de menstruation, on peut se dire, cette patiente-là, fort probablement qu'elle est en ménopause. Fort probablement parce qu'elle est peut-être dans sa salle d'attente, puis peut-être qu'elle va faire une autre ovulation le mois prochain. C'est toujours possible. Le test pour la ménopause, pourquoi? Il peut être intéressant. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui rentrent en ménopause dans la quarantaine. Il y a des gens, donc, on faut diagnostiquer une ménopause naturelle, d'une ménopause qu'on dirait précoce, en bas de 40 ans, où là, les besoins en remplacement hormonal ne sont pas les mêmes. Donc, ça nous aide à différencier est-ce que c'est une vraie ménopause qui est en installation ou c'est plus un problème de communication entre l'hypophyse, puis tes ovaires, puis l'utérus, donc dans ton axe hypothalamique-hypophysaire, qui fait en sorte que tu n'as plus de menstruation parce que, par exemple, tu t'entraînes trop, il y a un problème de malnutrition, il n'y a pas assez de glucides, il n'y a pas assez de protéines, est-ce qu'il y a un problème de thyroïde, est-ce qu'il y a un problème de la prolactine est trop élevée. Donc, ça nous sert à le bilan, il n'est pas absolument nécessaire, mais il peut venir nous indiquer s'il y a des problèmes avec l'axe hypothalamique hypophysaire quand on pense qu'une patiente n'est pas nécessairement en ménopause. Mm-hmm. Dans la transition ménopausique, bien là, c'est caractérisé par des grandes variations hormonales de mois en mois. En général, on va avoir presque 3 fois plus de pics d'estrogène qu'au niveau de notre progestérone. Donc, le dosage, quand on veut le faire, pourquoi on le fait? C'est pour aller discerner est-ce que les symptômes sont en lien vraiment avec les hormones ou s'il n'y a pas d'autre chose qui amène des mêmes symptômes que la périménopause. Je pense, par exemple, à la résistance à l'insuline, au prédiabète, ben, ça peut me faire des hypoglycémies, ça fait des bouffées de chaleur, ça peut me réveiller la nuit. Est-ce que c'est ça? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un problème, tu as tellement des cycles menstruels abondants qu'on a un problème de ferritine diminuée? Donc, ça fait perdre les cheveux, ça fait faire de la fatigue. Donc, le bilan peut vraiment venir nous indiquer est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient, en dessous de ça, qui pourraient expliquer les symptômes. Je dirais, il y a un médecin qui est une endocrinologue, qui a une chaire de recherche au niveau universitaire, qui nous a dit qu'on pourrait aussi seulement se fier sur les symptômes. Puis je vous l'ai dit, là, elle a dit, si c'est probablement en préménopause ou en périménopause, quand tu as au moins 3 changements sur ces 9-là, les 9 étant d'avoir un cycle menstruel qui est plus abondant ou plus long, d'avoir un cycle menstruel qui est plus court, comme par exemple en bas de 26 jours, d'avoir des seins qui étaient d'habitude, j'avais pas mal aux seins, puis là j'ai des seins à chaque cycle qui sont plus douloureux, qui sont plus gonflés, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites bosses, de petits kystes au niveau des seins, d'avoir des réveils nocturnes au milieu de la nuit. Donc généralement, je m'endors super bien, mais je me réveille la nuit, puis là je suis plus capable de me rendormir. Donc ça peut être en lien aussi avec la périménopause. D'avoir une augmentation des douleurs au moment des menstruations. Donc ils sont toujours... Peut-être que la fréquence n'a pas changé, mais c'est plus douloureux. D'avoir des nouveaux maux de tête, hein, les gens qui sont migraineux puis qui voient une exacerbation, donc j'ai de plus en plus de migraines. Donc ça aussi, ça peut être un des symptômes. Ensuite, il y a la prise de poids qui est sans avoir fait de changement dans son alimentation ou dans son exercice. Puis, tu sais, fait que ça fait quand même beaucoup de choses, mais en général, on pourrait dire, si tu es en haut de 37 ans, ou tu es dans les eaux d'avoir 37 ans, puis tu as au moins 3 de ces symptômes-là, fort probablement que des symptômes de périménopause. Le but d'aller consulter, c'est pour éliminer est-ce qu'il n'y a pas un prédiabète? Est-ce qu'il n'y a pas un début de d'autres choses qui pourraient être diagnostiquées dans les bilans sanguins? Mais l'interprétation de nos bilans hormonaux reste extrêmement difficile dans cette période de transition ménopausique parce qu'elle est extrêmement variable d'un cycle à l'autre. Quand on fait nos prises de sang, on est toujours en arrière de ce qui s'est passé. Hein? Mmh. Donc, je vois la patiente, des fois, ça fait 3 mois, mais notre prise de sang, elle a été faite. Ça fait 3 mois, on n'est plus là. On n'est plus là, on est dans un nouveau cycle. Elle a des nouveaux symptômes. Donc, c'est vraiment difficile dans cette période-là d'aller identifier c'est la faute de telle hormone. C'est tellement un ensemble de choses qui fait qu'on va expérimenter l'intensité des symptômes que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, puis je les comprends tout à fait, là, qui n'osent absolument rien parce que c'est difficile à interpréter. Ouais, puis, effectivement.
OK. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé justement, bien, évidemment, quand on pense aux hormones féminines, on pense à la progestérone, aux estrogènes. Puis, tu sais, de ce que j'en comprends aussi, c'est beaucoup, ben, comme tu l'as dit, là, c'est beaucoup l'équilibre entre les deux, en fait, ou le déséquilibre entre les deux, du fait que l'estrogène est beaucoup plus élevé que la progestérone, qui peut occasionner des symptômes. Mais je pense qu'il y a d'autres hormones aussi qui peuvent rentrer dans le tableau, puis aller un peu, tu sais, j'ai l'impression que les hormones s'influencent l'une l'autre, notamment dans ta formation, là, tu parles de l'insuline, tu parles des hormones de la glande thyroïde. C'est quoi les hormones qui peuvent avoir un effet finalement sur nos symptômes en périménopause? Puis est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Est-ce qu'on devrait s'intéresser à ça dans cette phase-là?
En fait, les hormones, ça veut juste dire communication. C'est un mode de communication que notre corps utilise pour garder l'équilibre dans différents systèmes, au niveau cardiaque, au niveau de notre cerveau et tout ça. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est très large. Une hormone est capable de délivrer un message dans une grande nuance de teinte de gris. T'sais. Elle va non seulement donner un message très spécifique, mais elle va être capable d'attendre la réponse. Elle va faire des loops d'inhibition, d'activation. Donc, le système endocrinien, là, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Puis d'essayer de réduire ça à c'est un problème de cette hormone-là en particulier, sans regarder sa relation avec les autres, ben, c'est pas faisable. C'est pas une approche qui est intéressante. Je dirais, quand je disais que tantôt c'était un événement, la transition ménopausique, c'est un genre d'événement bien orchestré, c'est qu'on sait que principalement, tu sais, ça va commencer avec une progestérone qui va diminuer parce que la progestérone est produite par le corps jaune qui est dépendant de l'ovulation. Donc, au début, on va avoir un déficit. On va avoir moins de progestérone dans notre deuxième phase du cycle, qu'on appelle la phase lutéale. Et là, ça va être relié à l'anxiété, douleur au niveau des seins, les frissons, un petit peu plus de migraines. Puis, comme la progestérone, c'est un peu l'hormone yang, c'est une hormone qui vient compenser l'estrogène, qui vient équilibrer l'estrogène dans mon cycle. J'aime vraiment ça avec des pics d'estrogène, des fois, qui sont très élevés. Donc, ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut accentuer plein de choses, comme par exemple les migraines, mais aussi, de façon très intéressante, la relâche d'histamine. Donc, c'est là qu'on voit des patientes aussi qui peuvent avoir plus d'allergies alimentaires et tout ça. Ça va être relié finalement aux hausses d'estrogène qui ne sont pas bien compensées par la progestérone. Donc, puis, tu sais, c'est l'effet combiné finalement du manque de progestérone, puis tranquillement le déficit en estrogène qui va s'installer, qui va nous amener vers plus de résistance à l'insuline. Donc, la résistance à l'insuline va nous amener un gain abdominal, puis là, ça va être un genre de cercle vicieux qui va venir un petit peu briser nos hormones de reproduction. Donc, effectivement, tu sais, tout s'influence. C'est difficile de prendre un symptôme puis d'aller regarder c'est la faute de cette hormone-là en particulier. Tu sais, c'est pas une approche qui fonctionne.
Je vais pas nous faire ça simple. On veut un coupable.
Tu sais, quand je disais tantôt au début de notre entrevue que j'avais essayé de mettre toutes mes choses, mes connaissances ensemble, tu sais, je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire dans le cours. Puis aussi pour m'organiser, pour être plus efficace, pour regarder quand j'aide quelqu'un, mm-hmm. pour donner des conseils qui soient comme plus appropriés. Fait que vraiment chercher vraiment un concept pour essayer d'expliquer cette interrelation-là, puis le fait que tout bouge ensemble, puis le fait que quand tu améliores, en fait, une partie, tu vas avoir un effet sur les autres. Puis c'est là que je suis vraiment retournée dans des concepts, tu sais, d'équilibre, tu sais, donc comment j'organise dans un concept cohérent pour mieux expliquer ce principe-là d'équilibre. Puis quand on est dans nos variations hormonales, qu'on a des grandes variations, mais dans le fond, c'est, on doit tous tendre vers retrouver un équilibre. C'est comme ça qu'on va se sentir mieux. Indépendamment du nom de telle hormone, là, c'est vraiment, il faut que je retrouve un équilibre. Fait que là, c'est là que j'ai pensé au concept de triade. C'est quelque chose qui, on le voit beaucoup en médecine ayurvédique. On parle des trois doshas, le vita, le pitta, kapha. Mais aussi en médecine traditionnelle chinoise, on parle des trois trésors. Donc, on parle de l'essence, de l'énergie, puis de l'esprit. Donc, je me rappelle dans mes cours, on me disait tout le temps le concept de la triade de trois, c'est super important. Puis, il donnait toujours comme exemple, par exemple, un tabouret. Si tu veux vraiment avoir quelque chose de hyper solide, puis qui va pas être déstabilisant, avoir trois pattes, trois piliers sur lesquels t'appuyer, c'est là que tu vas retrouver, avoir le meilleur point au niveau de ton équilibre. À partir du moment où tu vas ajouter une autre patte, ben là, tu vas peut-être, ça va redevenir bancal. Il y en a une qui sera pas tout à fait au même niveau que les autres. Donc, quand j'ai essayé d'organiser ça, je me suis dit, je vais parler de trois sphères qui s'influencent les unes les autres. Et c'est là que j'ai divisé les hormones dans des sphères pour mieux comprendre leur interaction dans ces sphères-là elles-mêmes, mais comprendre aussi l'interaction entre ces différentes sphères-là. Donc, les trois sphères que moi j'utilise là, puis que j'essaie toujours de me ramener à ça, c'est la sphère d'énergie, la sphère de stress, puis la sphère de reproduction. Puis l'important, c'est de faire dans chaque sphère, d'aller tendre vers l'équilibre dans chacune de ces sphères-là. Puis quand on parle d'équilibre, ben c'est là que j'ai introduit le concept du yin et du yang, parce que je trouve que de séparer nos hormones en yin-yang, c'était plus facile que d'y aller avec les noms, puis comment ils sont sécrétés, puis pourquoi, puis tout ça. Ça rendait le système reproducteur puis endocrinien peut-être un petit peu plus ludique. Fait que quand on parle du yin et du yang, c'est vraiment, il faut juste comprendre ces deux forces qui sont opposées, mais en même temps qui sont complémentaires, puis qui vont exister en tout. Finalement, tu sais, le dualisme, il est inhérent à l'univers, il est partout dans la vie. Un des exemples que je donne souvent en conférence, c'est quand tu regardes l'océan, ben, tu sais, il n'y a pas d'océan sans eau, sans yin, sans matière, mais il n'y a pas d'océan non plus sans énergie, sans l'énergie yang qui fait bouger les vagues. Parce que si on n'a pas de vagues, on n'est pas devant un océan, on est devant un grand lac. Donc, c'est vraiment d'avoir ces deux forces-là qui s'influencent mutuellement, mais qui sont opposées, complémentaires, c'est important dans chaque sphère pour pouvoir tendre vers l'équilibre. Donc là, j'ai divisé dans ces sphères-là, j'étais allée regarder, c'est quoi les hormones qui sont plus yang, les hormones plus énergie, force, tu sais, endurance, ces choses-là, par rapport aux hormones qui sont plus là pour aller équilibrer cette force-là, mais qui sont plus, ils ont plus des qualités en termes de restauration, d'équilibre, régénération cellulaire, sommeil, tout ça, effectivement. Fait que j'allais vraiment regarder là-dedans, puis je me suis dit, ben, tu sais, quand on va sphère par sphère, puis qu'on essaie d'équilibrer le yin et le yang à l'intérieur de chaque sphère, non seulement je vais améliorer l'équilibre dans cette sphère-là, mais je vais améliorer l'équilibre au complet. Mm-hmm. Parce que du corps au complet, parce que tout s'influence. Tu sais, puis je peux, tu sais, peut-être donner un exemple pour que ça soit plus concret. Par exemple, dans la sphère stress, on a les hormones qui sont plus yang. Hein, donc, on parle du cortisol, on parle de l'adrénaline. Puis, il y a nos hormones qui vont plus venir contrebalancer, par exemple, la mélatonine, le DHEA, l'oxytocine. Donc, tout ça dans notre sphère de stress, par exemple, dans notre vie quotidienne, on est souvent en surplus d'un cortisol qui a tendance à rester élevé pour soutenir notre mode de vie occidental. Hein. Donc, on a un cortisol généralement qui peut demeurer élevé. Ça, ce que ça fait sur l'ensemble du corps, ben ça l'influence, ça crée de l'inflammation chronique aussi. Puis ça l'interfère, ça vient dépléter mes hormones yin dans cette même sphère-là. C'est-à-dire que quand mon cortisol est élevé, ben, je dors moins bien. J'ai souvent une perturbation du cycle circadien, qui est une horloge qu'on a tous à l'intérieur de nos, de nos cellules. Puis cette horloge-là est super importante pour notre système immunitaire, pour notre système de reproduction et tout ça. Fait que, par exemple, quand je suis hyper stressée puis que mon cortisol il est dans le plafond, puis il est dans le plafond même la nuit quand je suis posée de dormir, puis que je respecte pas mon cycle circadien, ben c'est sûr que le lendemain, j'aurai des répercussions dans ma sphère énergie. Je vais être fatiguée. Mais non seulement ça, c'est que le cycle circadien, c'est lui qui va gérer la gestion de mon métabolisme. Donc, si je dors pas bien, ce qui va se passer, c'est que je vais moins bien métaboliser mes glucides. Je vais me ramasser dans un état où j'ai des glucides qui sont en circulation, j'ai du glucose en circulation de façon chronique. Tu sais, j'ai de l'insuline qui n'arrive pas à faire son travail, à faire entrer le glucose dans les cellules. Et là, je vais me ramasser avec peut-être des manifestations de ça, avec des bouffées de chaleur, avec une prise de poids, avec plus de fatigue par exemple. Mais ça, c'est tout en lien, on le sait, quand on dort pas bien, on gagne, tu sais, on peut gagner du poids. Mm-hmm. Donc, vraiment, tu sais, puis le cortisol qui demeure élevé, mon hormone yang, elle va venir affecter ma mélatonine, le DHEA, qui vont avoir des répercussions dans ma sphère reproduction, parce que DHEA, il va vouloir aller aider mon cortisol, il va dépléter encore plus ma progestérone, puis ça peut se manifester par diminution de la libido, la fatigue, justement, le gain de poids. Donc, tu sais, l'idée d'aller regarder ces sphères-là, puis se dire, qu'est-ce que je peux faire dans chaque sphère, dans ma vie à moi, pour rééquilibrer le yin et le yang? Mm-hmm. Ben, ça fait des conseils peut-être moins qui s'adressent à tout le monde. Mm-hmm. Ça s'adresse peut-être plus à ta vie en général, parce que moi, j'ai des patients qui ont des personnalités de type A, puis qui sont comme « Hey, j'ai pas le temps d'être en périménopause, comprends-tu? » OK! Parfait. Fait que là, on veut maintenir ce niveau de cortisol-là. C'est notre choix. C'est ça qu'on demande. Comment je vais le rééquilibrer? Comment tu vas t'assurer qu'à la fin de la journée, tu n'as pas déblété toute ta batterie, mais que tu as fait des activités, des choix dans ton exercice, dans ton alimentation, dans des suppléments, tu sais, les choix que tu as fait pour qu'à la fin de ta journée, tu n'es pas dans le négatif, dans ton compte en banque. Mm-hmm. Pour maintenir le bon fonctionnement de toutes ces sphères, de cette sphère-là. Puis ça va dépendre, il y a différents patients qui sont à différents endroits aussi, qui ont différentes réalités aussi en fonction de leur génétique. Hein. Donc, on parlait de la résistance à l'insuline tantôt, ben des patients qui, à partir d'un certain âge, là, le contrôle des glycémies devient comme extrêmement difficile. Fait que là, on dirait, quand tu as identifié dans les sphères, OK, ça, c'est vraiment difficile. Puis honnêtement, si je m'adresse à ça en premier, je vais régler tellement de choses au niveau hormonal, au niveau de ton stress. Donc, c'est ça, tu sais, d'où le, je pense, la beauté de travailler en équipe là, pour aider les gens qui sont dans ces personnes-là. Est-ce que je m'égare?
Non, c'est super intéressant. Je bloque tes paroles. C'est rare que je parle aussi peu dans un podcast. Sûrement des gens qui vont dire, es-tu encore là? Hey, mais ça m'allume une lumière, là, puis je fais vraiment une parenthèse, là. J'ai une question pour toi. J'ai une cliente sous Ozempic, bon, les gens connaissent probablement ma vision par rapport à Ozempic, mais elle me disait justement, elle est sous Ozempic pour perdre du poids, elle n'est pas diabétique, mais elle m'a dit dernièrement qu'elle avait eu des problèmes avec ses cycles menstruels qui étaient très abondants, puis tout, puis elle a dit crème, étrangement. Elle dit, ça va bien, mes cycles menstruels, présentement, tu sais. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est à cause du Ozempic, comme, qui va agir justement sur ses glycémies, puis finalement, ça régule un peu son cycle menstruel? Qu'est-ce que t'en penses?
Par exemple, on peut avoir, quand on a, dans le syndrome des ovaires polykystiques où on a des mm-hmm. problèmes de résistance à l'insuline, hein, nos patientes, elles ovulent pas parce qu'on a, donc des fois, quand on vient améliorer la perte de poids, qu'on diminue la résistance à l'insuline, les patients vont se remettre à ovuler puis garder leur propre mm-hmm. hormone de façon optimale le plus longtemps possible. Donc oui, il y a un lien. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Mais tu sais, pas nécessairement. Ça va effectivement, tu sais. Mm-hmm. Moi, je suis pas médecin de famille, fait que j'ai pas tout le background avec l'Ozempic, là, je dirais. Je sais pas sur le long terme, si ça, mais tu sais, c'est sûr que de façon transitoire, le fait de prendre l'Ozempic, de diminuer la résistance, d'aller jouer sur les glycémies, ça a probablement amené une perte de poids. La perte de poids vient augmenter, améliorer finalement son métabolisme des glucides. Et ça va avoir un impact sur la fonction ovulatoire. Puis elle va peut-être retourner à des cycles menstruels qui sont plus normal pour elle, plus régulier, parce qu'elle a amélioré la fonction ovulatoire. Fait que, ben, je veux pas qu'on comprenne de ça non plus, qu'il faut prendre de l'Ozempic.
Non, moi, je suis pas favorable à la prise de l'Ozempic du tout. Là. Mais j'étais vraiment curieuse quand elle me parlait de ça, je faisais des liens, j'étais comme, hey, je pense que c'est probablement l'Ozempic, mais bref, tu parlais des sphères énergie, fait qu'on dirait que tout se mettait en place dans ma
vie. Oui, parce que là, elle a amélioré la sphère énergie. Ça, là, quand on améliore, par exemple, on a un problème de thyroïde, on améliore notre thyroïde, ben, on a des répercussions sur la sphère de stress, puis on a des répercussions sur nos hormones de reproduction aussi. C'est mm-hmm. peut-être en raison de ça. Moi, je pense que l'objectif dans la période de transition ménopausique, c'est de rester avec nos cycles hormonaux le plus longtemps possible.
Okay.
Parce que c'est la meilleure protection qu'on peut avoir. On a des études là, qui ont récemment sorti sur comment la santé cognitive, tu sais, d'avoir nos propres cycles menstruels ovulatoires le plus longtemps possible. C'est vraiment ça. Puis d'améliorer nos habitudes de vie en fonction pour notre santé future, c'est vraiment ça qui va prévenir beaucoup plus les maladies cardiovasculaires, puis la santé cognitive, puis la façon dont on vit. Ouais, effectivement. Fait que moi, j'aime pas la solution facile de donner des hormones pour régulariser des affaires. Je suis comme, attends une minute, il y a quelque chose qui marche pas. C'est quoi la raison? J'ai-tu une autre façon que je pourrais aller adresser ce problème-là à la source de façon à pouvoir aider cette personne-là à adresser le problème avant qu'il devienne plus permanent? C'est sûr qu'en même temps, je ne suis pas contre les hormones non plus aussi, parce que des fois, on en a besoin. On en a besoin des fois sur une courte période parce que on a des saignements abondants, on a un problème d'anémie, tu sais, bon, c'est tout, c'est mieux que d'avoir une chirurgie, là. Je les utilise aussi, mais je les utilise pas sans avoir fait le tour de toutes ces sphères-là pour aller voir qu'est-ce que je peux aussi améliorer dans ces autres sphères-là qui vont venir soutenir mon traitement pour que, ultimement, retourner à une ovulation qui est plus... une ovulation qui est plus, je dirais, naturelle le plus longtemps possible.
Mm-hmm. Cool. Puis on n'a pas beaucoup parlé de la sphère, un peu, comment tu l'appelles, toi, la sphère. Les hormones thyroïdiennes sont où là-dedans? Sphère de stress?
Ils sont dans la sphère énergie, parce que je les ai mis avec glucides, thyroïde. Tu sais, la thyroïde est responsable du catabolisme et tout ça. Mm-hmm. Fait que là, dans la période de transition ménopausique, on voit souvent beaucoup des maladies auto-immunes, hein? Donc les gens qui ont une prédisposition, qui ont des anticorps en circulation, vont se retrouver souvent dans la quarantaine, avoir des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc ça fait partie de nos bilans, c'est des choses qu'on peut adresser. Puis tu sais, avoir une thyroïde qui fonctionne pas bien, ben ça donne aussi des symptômes, ça vient amplifier tes symptômes de périménopause là, puis ça peut même créer des symptômes qui sont très en lien avec la périménopause. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut doser, faire un bilan thyroïdien, surtout chez les gens, là, comme je te dis, qui en ont dans la famille, qui ont une histoire familiale positive. C'est important d'aller s'assurer que la thyroïde, que le problème à la base est pas ça.
OK. Ouais. Puis, j'ai l'impression que c'est controversé un peu, les labos, par rapport aux hormones thyroïdiennes. T'en penses quoi, toi?
Oui. En fait, moi, je suis toujours de me remettre dans le contexte qu'on a un système public, puis on fait des choix. Puis ces choix-là, c'est qu'on fait des tests pour tout le monde pour identifier principalement des maladies. Donc, on a des espèces de courbes de Gauss, là, tu te rappelles, tu sais, pour différencier les moins bons dans la classe, puis les tu sais, l'espèce de courbe, il y a ceux qui sont super bons, puis il y a ceux qui sont moins bons. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça qu'on fait quand on identifie une maladie, c'est qu'on dit, mais il y a toute une zone où on est dans la normale, entre guillemets, puis là, on rentre dans une zone de maladie quand on est trop haut, quand on est trop bas. Fait que le problème avec la thyroïde, c'est ça, c'est qu'on a vraiment une des valeurs qui sont très larges. Donc, puis quand on dose, par exemple, la TSH, est-ce qu'il y en a qui vont soulever la question, est-ce que ça nous rassure que la production par la thyroïde de T3, T4 est suffisante, par exemple. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'on a le débat sur les genres de bilans qu'on doit faire. Et on a vraiment quand même des guidelines, là, NICE, sur est-ce qu'on devrait aborder l'hypothyroïdie subclinique. Ça, c'est comme vraiment un autre sujet, là, là-dessus, mais c'est ça, je pense que la thyroïde, c'est important dans la quarantaine de peut-être juste avoir une valeur de base, de juste l'adresser pour être sûr qu'on n'est pas en hypo puis en hyperthyroïdie. Puis après ça, ben là, c'est tout le questionnement. Quel type de test plus spécifique pour avoir un bilan thyroïdien qui est peut-être un petit peu plus complet. Mm-hmm. Là, on pourrait en jaser dans un autre podcast.
On n'ira pas là. OK, parfait. Mais dans le fond, ce que je peux en comprendre, c'est que, mettons que quelqu'un vivra avec des symptômes puis ne les comprend pas trop, a vraiment l'impression que ça pourrait être lié à ça, mais qu'on a se fait dire qu'elle a des valeurs normales. Est-ce que cette personne-là, puis j'ai vraiment personne en tête, mais est-ce que cette personne-là pourrait avoir envie de pousser plus loin en allant au privé pour avoir un bilan plus complet, mettons? C'est quelque chose qui se fait ou pas?
Dans le public, présentement, on est capable de faire d'éliminer de l'anémie, de calculer la ferritine, un bilan avec le cholestérol, regarder est-ce que... Tu sais, on est capable de regarder beaucoup de choses. Je pense que le privé vient répondre à un certain besoin dans le sens que on a du temps avec nos patientes. T'sais, c'est ça le luxe d'être en privé. Moi, j'ai du temps avec ma patiente. On a le temps de faire des questionnaires, d'adresser tous les symptômes. On fait du counseling alimentaire. Donc, on est ailleurs. Que quand j'étais dans le système public, j'avais toutes les bonnes intentions du monde, mais avec une liste d'attente de 1 an. Puis on nous réfère des gens en milieu hospitalier, beaucoup qu'on fasse des techniques. Donc, tu sais, c'est une pratique qui est différente. Moi, je veux pas nécessairement envoyer toutes les gens vers le privé. Je crois pas en cette nécessité-là. Je pense tout à fait que le professionnel de la santé est vraiment en mesure de vous conseiller dans le sens de dire, écoute, je vois qu'il y a plusieurs symptômes, mais je te rassure, tu n'as pas de l'hypothyroïdie, tu n'as pas de maladie auto-immune, tu n'es pas en anémie. Il faut sortir de là en disant, hey, c'est une bonne nouvelle. Je suis juste en périmée en pause. Il y a des choses que je pourrais faire au niveau de mon alimentation, changement de vie, au niveau de mon exercice qui pourrait m'aider. C'est une bonne nouvelle de ne pas se faire dire qu'on a une maladie, finalement. Fait, tu sais, je pense que le privé, pour certaines patientes qui ont des problèmes vraiment particuliers, qui ont vraiment des grosses réactions allergiques, qui ont contre-indications à prendre de l'hormonothérapie pour X, Y raison, on a plus le temps d'adresser ces problématiques-là. Mais je pense qu'on fait un travail à quelque part qui s'équivaut. C'est juste que, c'est ça, c'est une question de temps, c'est plate de
même. Ouais, je comprends. OK, cool. Fait que si on termine, mettons, sur une note un peu positive puis qu'on passe un peu en mode solution, tu sais, justement, on a parlé des 3 sphères d'énergie, mais selon toi, là, mettons qu'on se dit justement, bon, clairement, il y a un lien entre mes habitudes de vie puis les symptômes que je peux vivre à la périménopause. Fait que ça serait quoi, selon toi, les principales actions qu'on peut poser dès maintenant pour faire en sorte que ce soit le plus doux possible?
Parfait. Fait que je pense que la première des choses, là, c'est qu'il faut juste, comme dans nos périodes de transition, avoir une idée, est-ce que je dépense trop d'énergie par rapport à ce que j'ai parce que mon corps est en période de transition? Fait que, tu sais, on parle tout le temps de la crise de la quarantaine et tout ça, je pense que c'est pas là pour rien, ça. C'est peut-être le moment, première chose, d'évaluer dans nos vies, sans où mes pertes d'énergie que j'ai. Réévaluer peut-être nos priorités, acquérir des nouvelles croyances sur cette nouvelle période où on s'en va toutes, parce que c'est pas quelque chose qui est optionnel, là. On va tous passer au travers de cette période-là. Donc, devenir s'interroger sur, c'est quoi maintenant mes priorités, mes valeurs? Est-ce que c'est les mêmes que quand j'étais dans ma phase de reproduction? Je pense que ça, c'est un travail qui est intéressant à faire. Après ça, je dirais, tout le monde, moi, numéro 1, je commence toujours à prioriser le sommeil. Si je ne règle pas les problèmes de sommeil, j'ai beau faire ce que je veux dans les autres sphères, ça a tendance à pas fonctionner. Parce que c'est bien normal, quand on dort pas de la nuit, le lendemain, on est plus irritable, on fait des mauvais choix alimentaires, on n'a pas le goût d'aller s'entraîner. Donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est ça, c'est regarder qu'est-ce qui marchait pour moi, puis peut-être qu'est-ce qui marche plus. Fait que c'est peut-être le moment de dire, ben, je sais pas, j'ai beaucoup de gens qui dorment avec leurs animaux de compagnie. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore important pour moi dans ma vie à ce moment-ci parce que j'ai des réveils fréquents, diminuer les écrans avant d'aller dormir. Tu sais, vraiment faire de notre sommeil là, une espèce de priorité puis dire ce mois-ci, qu'est-ce que je peux, que je vais tout mettre de mon bord pour que favoriser le sommeil, réduire, ben on le sait là, tu sais, exactement. L'autre chose, je pense que c'est l'alcool, parce que l'alcool va venir jouer sur ta glycémie, l'alcool va venir exciter, mais aussi faire un effet antidépresseur, va influencer avec mon sommeil. Fait vraiment, je pense, puis on a vraiment besoin de bon fonctionnement de notre foie. Quand on parle au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, là, le méridien du foie est vraiment important dans cette période de transition-là. Donc, je pense qu'une des choses, c'est juste revoir sa consommation d'alcool à la baisse. C'est quelque chose qui peut nous aider énormément. Moi, je vois beaucoup de gens qui se disent « Ah, ben ça marche pas les hormones parce que je me lève la nuit puis j'ai encore des bouffées de chaleur, mais qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah, ben une pizza puis deux verres de vin. » Ah, ben, tu sais, c'est...
Je me permets une parenthèse. Hier, j'avais un événement réseautage puis écoute, j'ai pris deux verres, là. Puis à matin, je me suis dit « Aïe, aïe, j'ai mal dormi. » Tu sais, je suis rendue là à 35 ans à prendre deux verres puis à mal dormir, mais tu sais, c'est fou, là. Ça a un effet direct, là. Fait que, effectivement, puis c'est drôle parce que juste avant qu'on enregistre, j'ai fait une publication aux médias sociaux sur la motivation qui est souvent difficile au mois de novembre. Puis le conseil numéro un, c'est priorise ton sommeil. Tellement, là.
Je pense que ça part de là. Puis ça, c'est, ouais. C'est comme c'est tout le monde. Je pense qu'on est hyper sollicité. Puis, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le choix parce qu'ils travaillent de nuit. Donc, tu sais, c'est peut-être d'essayer de dire est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que je pourrais changer cet horaire-là? Puis si on ne peut pas, c'est comment je m'occupe encore plus de ce sommeil-là parce qu'on sait que ça vient influencer notre horloge biologique, puis ça a des conséquences un petit peu partout. Fait qu'après ça, c'est vraiment, je dirais, un autre conseil qui est vraiment la respiration. Puis ça, c'est vraiment parce que ça nous aide à gérer notre stress, ça nous aide à diminuer le cortisol. Puis quand le cortisol est plus bas, toutes les autres sphères s'améliorent aussi. Fait que comment, dans ma gestion du stress, je peux incorporer peut-être juste un petit 10 minutes de respiration profonde, 6 secondes en inhalation, 6 secondes en expiration, en respirant par le nez. Ça vient activer notre nerf vague aussi, ça vient activer les activités du parasympathique. Puis, by the way, tout ce que je donne comme conseil là, c'est gratuit là. T'sais, c'est quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre quotidien à tous les jours. C'est sûr que moi, dans ma pratique ou dans mon quotidien, j'inclus aussi des points d'acupression pour aller directement activer le nerf vague pour m'aider à avoir une qualité dans la respiration et tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis, je dirais, des fois, c'est juste de regarder aussi au niveau de l'exercice. Je pense qu'on est dans une période quand on est go, 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 parce que on est en quarantaine, on travaille fort, on est hyper sollicité au travail, on est hyper sollicité à la maison. Est-ce que c'est le moment d'aller courir des marathons? Je comprends l'idée de les gens qui font du sport parce que ça leur fait du bien, puis il faut faire du sport, mais est-ce que dans la période où on est plus fragile, est-ce qu'on devrait peut-être pas incorporer plus d'activités yin, les étirements, le yin yoga, le tai chi, le qigong, pour aller encore là s'occuper de notre petite batterie? Qui est pas, parce qu'on est tous nés avec, en médecine traditionnelle chinoise, on parle du jing, qui est notre batterie, puis on est tous nés avec une batterie, il y en a un qui a une des plus grosses, il y en a un qui a une des plus petites, mais en fait, comment tu vas utiliser ton énergie, c'est bien plus important que la grosseur de ta batterie que tu as reçue à la naissance. parce qu'on a des gens qui peuvent vivre à 12 000 à l'heure, puis dans leur quarantaine, ils en ont l'air de 70, là, parce qu'ils ont épuisé leur énergie trop, puis il y en a d'autres qui vont avoir un petit peu de batterie, mais qui vont l'avoir bien utilisée en allant tout le temps équilibrer alimentation, exercice, sommeil et tout ça, puis qui vont vieillir en beauté. Fait que je pense que c'est peut-être, tu sais, je dirais les conseils généraux pas mal à tout le monde, ce serait ça. Puis n'hésitez pas d'aller consulter votre professionnel de la santé pour lui expliquer voici ce que je vis. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la périménopause? De poser la question, vous avez le droit de le faire, de solliciter de l'aide, d'aller chercher de l'aide. Je pense que c'est important. Vraiment.
Très intéressant. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Manon.
Fait que, mais ça fait plaisir.
Vraiment contente de t'avoir reçu. Si les gens veulent te retrouver, on a parlé de ta formation, je vais la mettre en lien. Là, si les gens veulent se la procurer, sinon, si on est intéressé par l'acupuncture, comment on peut te retrouver?
Donc, moi,
l'agenda, il est trop plein.
Non,
on peut laisser faire, là.
Non, c'est parce que je suis en train de transitionner vers un endroit, là, fait que je peux pas vous dire exactement cet endroit-là précisément, ça devrait se régler là, dans les deux prochaines semaines, mais sinon je travaille en clinique privée, si vous googlez mon nom, vous allez me trouver là, facilement.
Oui. Super, merci vraiment pour ton précieux temps. Je te souhaite une belle journée.
Merci.
Bye. Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!